suis arrivé en Belgique pour des raisons de logement. On est venu s'installer dans la région puisque mon conjoint était muté sur Armentières. Et on a eu des difficultés à trouver un logement qui nous convenait parce qu'on avait une contrainte canine de taille qui faisait qu'on avait besoin d'un terrain avec le logement. Et on a trouvé un logement au-delà de la frontière, un petit peu par hasard, sur la commune de Comines. Et au moment de faire les inscriptions en mairie, le bourgmestre, puisqu'on dit bourgmestre de ce côté-ci de la frontière, nous a informé que notre PACS, bien sûr, n'était pas valable. Donc, de fait, on se retrouvait célibataire, administrativement parlant. Donc, il nous a proposé de nous inscrire avec un contrat d'union civile ou bien de nous marier. Et ce qu'on a fait, très rapidement, on s'est marié en septembre 2005. Et en 2006, la loi permettant aux couples de même sexe d'accéder à la parentalité, on s'est posé la même question en se disant qu'est-ce qu'on fait. Et on a entrepris les démarches en vue d'une adoption et on est père d'un garçon de 4 ans maintenant. En tout cas, on est père depuis 2008. Voilà.
Comment ça s'est passé justement ces démarches? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment on fait quand on est un couple gay pour adopter un enfant?
Comme tous les autres couples. C'est-à-dire qu'on, dans le cas de la Belgique, le dispositif est très, très encadré. Donc on s'adresse à l'autorité centrale en se portant candidat pour être famille en vue de l'accueil d'un enfant confié à l'adoption. On passe différentes démarches et épreuves administratives de préparation en vue de l'adoption. Une fois qu'on a un document qui valide cette étape, on choisit un organisme agréé d'adoption qui, lui, vous accompagne dans votre projet parental. Donc vous rencontrez pendant plusieurs mois, voire années, des pédopsychiatres, des psychologues, des professionnels de la petite enfance, des assistants sociaux que vous rencontrez au sein de la structure, qui viennent chez vous et qui regardent votre capacité à être parent et qui vous délivrent au bout d'un certain temps ce qu'en France vous appelez un agrément et ce qui en Belgique s'appelle une capacité à adopter. Donc c'est un document qui valide le fait que vous êtes potentiellement une famille en capacité d'accueillir un enfant confié à l'adoption. Après, alors bien évidemment, il y a plus de familles qui disposent de ce document que le nombre d'enfants adoptables, après c'est un rapprochement des projets parentaux qui fait que certains enfants sont confiés dans des familles et d'autres pas, bien sûr. Donc il y a toujours des familles qui sont malheureuses de ce dispositif-là, mais les organismes d'adoption ont besoin de disposer d'un vivier entre guillemets de familles potentielles pour pouvoir choisir et faire que l'enfant est confié au mieux dans ses intérêts.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous avez pu faire ça parce que vous êtes en Belgique, mais pour les parents gays en France, il faut justement aussi aller en Belgique. Comment ils font les parents gays français?
Alors je vais vous faire une réponse en deux parties à votre question. On a pu le faire parce qu'on était en Belgique et parce que l'un de nous a demandé à être naturalisé, parce que si nous avions gardé notre nationalité, on n'a pas perdu notre nationalité française, mais si l'un de nous n'avait pas acquis la nationalité belge, on n'aurait pas pu entreprendre ce projet-là. Donc la solution pour les ressortissants européens d'aller dans un pays voisin qui permet l'adoption aux couples de même sexe n'est valable que si l'un des deux parents obtient la nationalité du pays en question. Et là, ça répond à des processus administratifs aussi qui sont précis en fonction du pays. Donc dans le cas de la Belgique, malgré ce qu'on peut entendre avec certains Français fortunés, c'est 3 ans de résidence. Voilà.
Un seul enfant, vous avez la garde complète, enfin, comment ça se passe
C'est une adoption plénière et conjointe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un des deux pères qui est père et pas l'autre, ou qui serait conjoint, nous sommes tous les deux pères, et nous ne sommes pas pères 50% chacun de notre enfant, nous sommes pères tous les deux à 100%. C'est ça qui est important avec l'ouverture et le projet de loi qu'il y a en France, c'est qu'on ne se trouve pas dans un contexte d'un parent et d'un conjoint. On se trouve bien dans un contexte d'un enfant ou de plusieurs qui ont des parents à part égale, au même titre. Donc ça, c'est l'intérêt de la loi belge et puis du projet de loi français, c'est que nous sommes pères à 100% et plénièrement, c'est-à-dire qu'il y a eu un renoncement complet de sa mère de naissance qui nous l'a confié sur son autorité parentale, sur son état civil, que ce soit sur l'état civil au registre national, en mairie, sur son passeport, sur sa carte d'identité, dans la rubrique parents, il y a nos deux noms.
C'est important, à la fois symboliquement, mais aussi matériellement, en termes de justice, quoi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui décède, ou simplement, il y avait quelqu'un que je connaissais qui me parlait de prendre l'avion avec son enfant, mais elle ne pouvait pas parce que le douanier lui demandait qui vous êtes par rapport à l'enfant.
Voilà, et éventuellement l'autorisation de sortie du territoire signée par le deuxième parent, oui. Alors ça, tout le monde est confronté à ça, des parents séparés, sans parler d'un couple gay, ça peut être le cas d'un couple hétérosexuel, une mère qui part hors de son pays, et voire hors de l'espace européen avec son enfant. Très souvent, le personnel d'aéroport lui demande l'autorisation de sortie du territoire signée de l'autre parent. après, vous me posez la question de savoir la dimension de l'intérêt d'être parents à 100% tous les deux. Vous avez utilisé le mot symbolique, mais je mets un point d'honneur à revenir là-dessus parce que c'est l'essentiel, c'est-à-dire que dans le processus déjà d'attachement de l'enfant, dans le cas d'une adoption, il est important qu'il ait un repère, une notion de qui sont ses parents, et dans le cas d'une adoption, ben les deux parents le sont, quand c'est un projet à deux, bien évidemment. Et ça a tout son sens pour les trois individus, l'enfant comme les parents. Il y a une dimension sociale et sociétale, effectivement, une dimension pratique. Effectivement, on n'a pas à remplir des documents précis pour autoriser son conjoint à aller chercher l'enfant à l'école le soir, ou pouvoir bénéficier de soins aux urgences ou auprès d'un cabinet médical. Nous sommes tous les deux ses parents, donc c'est suffisant pour justifier du fait qu'on s'occupe de notre enfant.
Dimanche dernier, il y avait une grosse manifestation intitulée « Famille pour tous » qui dit défendre la vraie famille. Comment vous voyez ce terme de vraie famille ?
Je pense que les familles sont multiples et que le propos de ces personnes est un petit peu obsolète en 2013 parce qu'on sait maintenant que les enfants grandissent dans des familles dites classiques, dites recomposées, dites séparées ou avec un parent veuf. Et donc le schéma qu'on essaie de nous renvoyer, qui est quand même fort connoté biologique, c'est-à-dire que le propos souvent de ces personnes en opposition avec ce projet de loi est de dire un père, une mère, il faut pas mentir aux enfants. Quelque part, ils ont raison. Mais c'est là qu'ils se trompent par rapport aux familles homoparentales. À aucun moment, on ne ment à nos enfants. Jamais, en tant que père, tous les deux, nous avons prétendu à notre enfant qu'il était issu de notre biologie, de notre ventre, d'une gestation que nous aurions eue. Il a conscience depuis le plus jeune âge, en tout cas au moins depuis le premier jour de sa première rentrée scolaire en maternelle à 2 ans et demi, qu'il est né dans le ventre d'une mère, sa mère de naissance, et qu'elle l'a confié en vue de l'adoption, et que nous sommes ses parents qui l'élevons. Donc à aucun moment on lui prétend que nous sommes un papa et une maman. Il a deux pères, on a dû trouver un mot pour différencier les rôles, parce que là aussi, dans le propos des personnes qui s'opposent à ce projet-là, ils pensent que deux hommes ou deux femmes ne sont pas en capacité de dissocier leur rôle dans un foyer, dans un couple ou dans une famille. Mais dans la réalité des faits, les enfants qui grandissent dans des familles homoparentales, d'eux-mêmes, et puis parce que si la famille ou le couple est organisé comme ça, dissocient le rôle ou la fonction parentale de chacun des parents. C'est-à-dire que, sans faire de rapprochement par rapport au genre, mais il y a un parent qui est plus paternant et l'autre qui est plus maternant. Je mets des guillemets énormes autour des adjectifs, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus dans la quotidienneté, l'autre qui est plus dans le jeu, il y en a un qui est plus dans le pédagogique, il y en a un qui est plus dans le pratique, etc. Donc il se passe la même chose dans une famille homoparentale que dans n'importe quelle famille. Et l'enfant sait très bien le faire, et les parents le font aussi, parce que c'est la construction de la famille qui s'opère comme ça. Donc pour répondre à votre question, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient gênées, embarrassées, curieuses. Par contre, les propos ou les slogans qui ont pu être utilisés quant à une éventuelle dangerosité d'une extinction de la race, une déstabilisation de la société, je n'y adhère pas, parce que je trouve ça ou obsolète, pour être léger dans mon propos, mais plutôt ridicule, parce que ça n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas imaginer que le fait d'ouvrir aux couples de même sexe l'union et la parentalité vont empêcher les autres couples de devenir parents. Ça n'est pas vrai. Il y en a qui disent que si on permet aux homosexuels d'adopter, les hétérosexuels ne pourront plus le faire. C'est faux. Il n'y a rien en ce sens-là. Toutes les familles auront une possibilité, une opportunité d'accéder à la parentalité. Et il faut bien que ces personnes-là comprennent que les organismes d'adoption qui ont la charge d'accompagner les projets ne sont pas dans une logique de genre ou de structure familiale, mais bien d'attachement de l'enfant à un foyer en capacité de l'élever. Et ça répond à d'autres critères qui apparemment échappent aux personnes qui manifestaient dimanche. Alors après, il y a d'autres formes d'accession à la parentalité pour les homosexuels, que sont la gestation par autrui. Ben là, c'est une question aussi d'ouverture de droit. Pourquoi permettre à certaines personnes dans une société d'accéder à des droits et pas à d'autres. Ben, c'est une question d'équité. Je crois que la devise française, et c'est un des rares, peut-être même le seul pays au monde à utiliser le mot égalité dans sa devise. Mais c'est aussi un des pays qui est le plus en capacité à avoir beaucoup de difficultés avec ce mot-là parce qu'il est très conservateur. Et on l'a constaté dimanche. Donc mon ressenti par rapport à tout ça, c'est un peu de l'impatience parce que je pense que dans 10 ans, on en rigolera beaucoup et qu'on aura oublié tout ça parce que les Français seront passés à autre chose. Ils auront réalisé que les familles homoparentales ne sont pas des extraterrestres ou des parents incapables d'élever des enfants. Ils sont des parents comme d'autres, avec le même taux de réussite ou d'échec dans leur projet parental. Et voilà, donc ça aurait été beaucoup d'énergie, voire de millions d'euros, puisque j'ai cru comprendre ce week-end. Ça m'épate un peu que toutes ces personnes bien pensantes et bien charitables et bien chrétiennes dépensent autant d'argent pour opposer les Français entre eux, ou en tout cas dire du mal d'une certaine couche de la population. Plutôt que de mettre ça au Resto du Cœur ou dans des projets d'accueil et d'accompagnement de personnes dans le besoin. Donc c'est vrai que ça peut... Moi, de mon point de vue et de mon côté de la lorgnette, entre guillemets, c'est plus ou moins révoltant, mais voilà.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça ne vous a pas choqué? Parce que quand
c'est,
on parle...
C'est,
quand
vulgaire,
on entend,
c'est choquant,
quand,
bien sûr.
Oui, quand on entend des mots comme continuité de la race humaine, des amalgames carrément honteux, bah, y a de quoi vraiment s'énerver, non?
Il y a de quoi s'énerver, mais est-ce que la solution aussi, c'est que tous les homosexuels de France et de Navarre ou d'Europe, en tout cas, disent « Ouh là là, on est malheureux, ça ne va pas je... ». Face à la bêtise humaine, moi, je préfère choisir la voie pédagogique. Ou quand j'entre, quand mon fils change de classe, je rencontre toujours les professionnels de la petite enfance, le surveillant, l'infirmière, la maîtresse, le directeur, et je dis « Voilà, je comprends que les personnes ne soient pas en capacité de comprendre la singularité de notre famille ». Et on est dispo à les rencontrer, à s'expliquer, à rencontrer individuellement d'autres parents, à faire des réunions d'information dans la cour de l'école ou dans la classe. Et je le fais au travers de mon activité professionnelle. J'accompagne les travailleurs sociaux en ce sens-là, je les forme. À travers des associations, on se rend disponible pour rencontrer les personnes aussi et expliquer ce qui se passe et à quoi ressemble une famille homoparentale, même si on ne devrait pas avoir le faire. Mais c'est effectivement une agression quelque part parce que il faut quand même se souvenir aussi que les homosexuels ne sont pas majoritaires dans la société. Ce n'est pas un regret que j'exprime, mais c'est toujours délicat pour une couche de la population minoritaire, mais qui a droit d'exister et de vivre, de voir son sort décidé, en tout cas bafoué ou vulgarisé par des personnes qui ne sont pas concernées, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Donc c'est là qu'on se sent attaqué, voire blessé, parce qu'on est un peu dans la même situation que je sais pas, par exemple, la population féminine qui n'avait pas le droit de voter et ce projet de loi était décidé par des hommes. Donc c'est ce qui a fait que ça a mis autant de temps à se faire. Où on est un peu dans ce contexte-là et c'est quelque part, c'est très très désagréable. Donc beaucoup de personnes en foi, qu'elles soient de gauche ou de droite, en gouvernement, beaucoup de personnes homosexuelles espèrent que ce projet va être abouti. Par moments, il y a des doutes parce que la posture du gouvernement semble timorée ou en tout cas diplomate avec beaucoup de personnes et donc, on attend le mois de février avec impatience et se dire ça y est, c'est fait, et voilà. Mais jusqu'au bout, tout le monde doutera et sera peiné de ça parce que c'est éprouvant. Effectivement, c'est éprouvant. Parce qu'au quotidien, bon, moi, je vis vraiment à cheval sur les deux pays, donc je vois la différence. D'un côté, quand je reçois un formulaire, c'est marqué parent 1, parent 2 et non pas papa, maman ou père, mère. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui me disent, mais qui remettent même en question l'homosexualité du fait des horreurs qu'on entend en ce moment. Donc, c'est quelque part, c'est fatigant et il est temps que ça se termine. Voilà. Parce que je pense en plus qu'il y a, c'est pas une question de priorité. Il faut pas, je crois que évoluer sur un plan sociétal, ça n'empêche pas de travailler sur des aspects économiques ou autres. Mais, la France, pays des droits de l'homme, elle est un peu en retard, non? Il me semble que les deux tiers de l'Amérique latine permettent l'union aux couples de même sexe et l'accession à la parentalité, alors que beaucoup de ces pays-là sont dits hyper croyants. Presque la moitié de l'Europe maintenant, toute l'Océanie est en train d'évoluer dans ce sens-là, l'Afrique du Sud, enfin voilà. C'est un petit peu curieux que la France soit si timorée, si en retard sur cet aspect-là.
dernière partie de notre entretien avec Laurent, un papa comme les autres au sein d'une famille homoparentale. Il nous parle du rôle de l'APGL, Association des parents gays et lesbiens, l'une des assos qui appelle à manifester pour le mariage pour tous ce samedi à Lille.
Alors il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un aspect de relation avec les institutions, c'est-à-dire dire on existe, nous sommes un certain nombre de familles homoparentales et voilà nos attentes. Donc ça a été un volet très important puisque la PGL fait partie des associations qui ont été interpellées par le gouvernement pendant la longue phase d'audition qui s'est faite à l'Assemblée, malgré ce que peuvent dire les opposants au mariage en disant qu'il n'y a pas eu de dialogue, qu'il faudrait un référendum. Mais plusieurs semaines et plusieurs heures de débats et d'auditions ont eu lieu à l'Assemblée nationale et sont toujours en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Ça, les opposants à la loi se gardent bien d'inviter les personnes ou d'aller surfer sur le site de l'Assemblée nationale pour voir ce qui s'y est passé. Et donc la PGL fait partie des associations qui ont été auditées du fait de sa légitimité en termes d'ancienneté et puis en termes de crédibilité, parce qu'elle est animée par des personnes qui ont fait leur preuve en matière de défense des droits LGBT. Une autre mission de la PGL est bien évidemment d'accueillir les familles, les parents candidats à la parentalité pour leur expliquer ce qu'est l'homoparentalité, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elles ou à eux. Sur les aspects juridiques, bien sûr, les aspects administratifs, les aspects commerciaux aussi, pour les personnes par exemple qui choisissent d'avoir un enfant par le biais de la procréation, de la gestation par autrui. Il y a une information donnée sur les cliniques qui existent, qui proposent cette possibilité-là. Donc voilà, ça c'est un des aspects. Et le troisième, c'est le lien entre les familles homoparentales, parce que même quand le projet est abouti et que les parents ont des enfants, parfois ils souhaitent se rencontrer. C'est pas une question de se ghettoiser, mais c'est aussi d'être entre soi, de partager un vécu, que les enfants voient qu'ils ne sont pas seuls dans une société à être avoir la même singularité familiale, donc de rencontrer d'autres enfants qui ont ou deux pères ou deux mères ou deux pères et une mère, parce qu'il y a les coparentalités qui existent également. Donc voilà, c'est un des aspects de l'action de la PGL.
Radio PFM, c'est une radio qui est basée à Arras,
oui,
dans une ville de moyenne importance, quoi. Est-ce que l'homosexualité se vit encore de manière différente dans des grandes villes et dans des villes de moyenne importance, quoi ?
C'est une réponse de Normand, quand je vais vous faire, mais elle se vit différemment. Je crois que ce n'est pas lié à l'environnement, à son importance, mais je crois aussi que ça dépend du vécu de chacun et de chacune. Je réponds à vos questions aujourd'hui parce que je fais partie des personnes visibles dans la communauté LGBT, mais d'autres personnes ne souhaitent pas répondre à des questions de journalistes. D'autres souhaitent le faire de manière anonyme. Certaines personnes vont souhaiter rencontrer leur partenaire de manière très discrète et d'autres n'hésiteront pas à aller dans un club ou dans un bar ou sur un site de rencontre. Je crois que c'est vraiment lié au vécu de chacun et de chacune. Il y a des homosexuels, on l'a entendu ce week-end, qui apparemment ne trouvent pas normal qu'on leur permette de devenir parents, ou en tout cas d'avoir le choix de le devenir. C'est là que l'ouverture de la loi a son sens, l'évolution de la loi autour du mariage et la parentalité a son sens en France. Ça n'est pas de dire tous les homosexuels du jour au lendemain vont devenir parents, de toute façon ça n'est pas ce qui se passera. Mais c'est de dire chaque citoyen en France, et citoyenne, à la liberté de croire ou pas dans une religion, une confession, et de pratiquer ou pas, d'aimer ou pas, de vivre célibataire ou en union, de vivre cette union mariée ou pas, de fonder ou pas une famille. C'est ça qui est important. Et après, chacun voit midi à sa porte. Et les homosexuels vivent leur homosexualité un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, toujours dans notre société, malgré tout ce qu'on peut imaginer en termes de développement sociétal, de progrès. Effectivement, en 2013, on n'est plus supposé être en 1973 ou en 1923, mais quoi qu'il en soit, il y aura encore des homosexuels qui ont des difficultés à vivre leur homosexualité parce qu'ils vivent effectivement dans un milieu sociétal peut-être plus rural et moins urbain, ou peut-être parce que leur éducation était moins ouverte sur cet aspect-là et donc on leur a renvoyé un modèle de l'homosexualité qui les met en conflit avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas autour d'eux des personnes comme des professionnels, de l'écoute ou des associations qui sont en capacité de leur dire, de les rassurer, de les écouter, de les accompagner. Donc tout ça a son sens et tout ça est encore nécessaire En 2013, je crois que le taux de suicide chez les adolescents ne va pas en décroissant, il est toujours aussi important. L'homosexualité parmi ces taux de suicide est un des facteurs importants encore dans nos sociétés modernes et développées. Comme quoi, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais vous savez, quand les associations ou les professionnels de l'éducation essaient d'introduire la problématique de l'homosexualité dans l'école, on a les mêmes personnes que celles qu'on a vues dans la rue ce week-end qui se mettent vent debout en disant mais non, il ne faut pas parler de genre, il ne faut pas parler d'identité sexuelle, il faut continuer de parler d'un père et d'une mère. Ces personnes oublient que la dimension familiale n'a jamais pas toujours été ce qu'elle est à notre époque. Elles oublient que le mariage d'amour, c'est une conception très moderne si on se place sur un plan historique. Et que voilà, il faut laisser aussi aux jeunes la possibilité de choisir qui ils sont et ce qu'ils veulent devenir dans notre société. Et l'homosexualité fait partie des tabous encore. Je parle de l'éducation, mais il y a aussi tout le monde du travail. Que je sache, les homosexuels ne peuvent toujours pas vivre simplement leur vie de leur choix, leur orientation, leur vie de famille dans le monde du travail. Souvent, il est inconfortable lundi matin devant la machine à café d'évoquer un retour de week-end avec des collègues parce que certains sont embarrassés ou certaines de dire ce week-end avec mon conjoint ou ma copine, on a fait ci, on a fait ça, parce que ces homosexuels-là savent très bien que leur vie quotidienne ou dans leur espace professionnel va être un enfer s'ils tiennent ce discours-là. Donc l'ouverture de la loi, et croyez, je ne suis pas un expert, mais en tout cas moi je vis à cheval sur deux pays, donc je vois la différence entre les deux, est quelque chose qui permet de tomber un petit peu ces frontières et ce regard-là. Donc quand on loue en Belgique un hôtel et qu'on se pointe une nuitée en hôtel et qu'on se pointe à l'accueil, la personne ne dit plus « Oups, je me suis trompé, je vous ai mis un lit marital, il faut que je vous change de chambre ». Parce que ça n'a plus d'importance de savoir si vous êtes marié ou pas, hétéro ou gay. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des homophobes partout, et ça c'est quelque part logique. Enfin voilà, tout le monde ne comprend pas la différence de l'autre. Mais ce qui est important, c'est que le contexte législatif ne permette plus de différencier les gens. Et c'est là que le projet de loi en France a tout son sens et est important.
Laurent, adhérent de l'APGL, Association des parents gays et lesbiens. La manifestation pour le mariage pour tous, ou plutôt la manifestation pour l'égalité, hein, puisque c'est son intitulé exact, est organisée par le collectif régional pour l'égalité ce samedi 19 janvier à 14h30. Rendez-vous place de la République à Lille, métro République Beaux-Arts. Il y aura aussi, c'est à noter, une manif à Paris le 27 janvier prochain.